Une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Aujourd'hui, on est en visio avec Joséphine Grolmund, qui est co-directrice du CIMN, donc Centre International des Musiques Nomades. Alors bonjour à toi Joséphine, comment tu vas ?
Bonjour, tout va bien. Pour l'instant, ça fonctionne.
Oui, on est très contents que ça fonctionne, heureusement. Alors, tu viens ce soir pour nous parler un petit peu de l'événement La Nuit Polaire qui est organisé par le festival Des Tours de Babel. Donc cet événement, il est le jeudi 19 décembre au théâtre Sainte-Marie d'en Bas, à Grenoble. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux un peu te présenter et nous en dire plus sur le festival des Tours de Babel ?
Oui, alors moi effectivement, je suis à la co-direction, ça veut dire que c'est moi qui fais la programmation avec mon collègue Pierre-Henri Frappa. On est très contents de choisir ensemble les artistes qui vont venir au Détour de Babel. Les Détours de Babel, c'est un festival qui se déroule du 21 mars au 13 avril cette année, en 2025. Et c'est un festival qui s'intéresse surtout aux rencontres entre les différentes musiques, et notamment les musiques du monde. Donc on invite des artistes venus du monde entier, d'Asie, d'Amérique, d'Afrique, d'Europe, voilà, du monde entier. Et ce qu'on aime, c'est quand les artistes qui ne jouent pas d'habitude ensemble se croisent leur musique, croisent leurs univers. Et c'est ça qui fait la richesse de notre festival, les Détours de Babel. C'est un festival qui se déroule à Grenoble, mais aussi dans une vingtaine de villes sur tout le département de l'Isère pendant 3 semaines. Il y a 80 concerts.
Oui, et donc il y a notamment aussi cet événement, la Nuit Polaire, qui va intervenir. Donc est-ce que tu peux un petit peu nous le présenter ?
Oui, alors c'est vrai que en fait toute l'année, en plus du festival, on est dans un lieu qui s'appelle le Théâtre Sainte-Marie d'en Bas, qui est dans le plein centre-ville de Grenoble. Et c'est un lieu dans lequel on accueille des artistes et des concerts, surtout à l'automne, et aussi un peu après au printemps, mais surtout à l'automne. Et là, on avait envie, quand on est arrivé à la co-direction avec Pierre-Henri Frappa, donc il y a 2 ans, on s'est dit on va marquer les changements de saison. Donc tous les 3 mois, on marque le fait qu'on change de saison. Donc à l'automne, c'est les journées du patrimoine qui sont en général autour du 21 septembre. L'été, c'est la fête de la musique où on fait une soirée slam au théâtre le 21 juin. En mars, c'est l'ouverture du festival, 21 mars. Et puis, 21 décembre, c'est le passage dans l'hiver. On s'est dit, le passage dans l'hiver, ce qui est vraiment marquant, c'est le fait qu'il fait nuit et que cette nuit qui est si longue, qui nous paraît si longue parce qu'il fait nuit à 6 heures, en fait, là-bas, dans le Nord, elle dure pendant 6 mois plutôt que 6 heures. Donc, on s'est dit, on va faire une nuit polaire. Donc, tous les ans, le jeudi avant les vacances scolaires de Noël, on propose une nuit polaire. Là, ce sera la deuxième.
Oui, donc c'était vraiment pour marquer ce changement de saison et l'arrivée de l'hiver. Est-ce qu'il y avait aussi d'autres raisons d'avoir choisi ce thème sur la nuit polaire ?
Au départ, c'était vraiment ça. On avait envie de transformer le théâtre et de le mettre vraiment dans une ambiance de passage dans l'hiver. En plus, c'est la dernière, c'est notre dernier concert de l'année, c'est notre dernier concert public avant le festival. Donc là, après, nous, on se met à travailler avec les musiciens pendant 3 mois, mais ça se voit pas pour le public. Donc c'était vraiment cette idée-là de faire une dernière grande fête et de transformer ce théâtre qui est, qui d'habitude ressemble toujours à lui-même. Toutes les semaines, on fait des concerts tous les vendredis soirs depuis début septembre. Et là, on va vraiment essayer de le transformer complètement dans sa lumière, dans ses odeurs, dans sa façon de voir les concerts. Et le monde polaire, il est très inspirant pour ça, parce qu'il y a à la fois les glaces, à la fois les sorcelleries, à la fois les forêts... La nuit, voilà, il y a beaucoup d'imaginaire autour de ce monde polaire.
Oui, donc en parlant de cet imaginaire autour du monde polaire, quelle image vous aviez envie de donner de ces territoires nordiques, enfin de montrer de la nuit polaire?
Au départ, on était vraiment dans l'idée de se réconforter face au froid qui est, dans lequel on va rentrer de façon encore plus grande à partir de la semaine prochaine, puisque c'est le début de l'hiver. Et à la fois de se remettre dans ces lumières incroyables qui sont les aurores boréales, et puis des grands ciels, et puis des grandes étendues glacées. Et en fait, c'est vraiment cet univers-là, ce lien aussi avec la nature qu'on avait envie de mettre en avant. Et le faire dans une chapelle du XVIIIe siècle, c'est pas simple. Mais en même temps, dans cette chapelle, il y a une architecture hyper belle. Il y a beaucoup de Grenoblois qui ne connaissent pas du tout ce lieu. En fait, c'est une chapelle de 1750 qui a des colonnes super belles, qui a aussi une voûte, du coup, qu'on va éclairer. On va avoir l'impression un peu d'être dans une nuit d'étoiles, d'aurore boréale. C'est ça un peu l'idée. Et à la fois d'être dans un cocon très, très accueillant, d'odeurs réconfortantes de l'hiver, que ce soit des mandarines, que ce soit du thé chaud, des plaids, voilà. On essaye d'être à la fois dans ces deux univers.
Ça va être un moment alors assez magique et authentique. Et donc, oui, ce théâtre, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter l'histoire ? Parce que c'est une chapelle, c'est ça, le théâtre Sainte-Marie d'en bas ?
Oui, au départ, c'était une chapelle qui faisait partie d'un grand couvent en fait, qui accueillait surtout des sœurs, parce qu'en fait, en 1750, Grenoble était toute petite et il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de couvents. Là, on voit maintenant, il y en a rue Saint-Laurent, encore des restes et tout. Et ça a été assez vite désacralisé, cette chapelle, parce qu'il y a eu la Révolution française, à peine 30 ans après que la chapelle ait existé. Donc ensuite, c'est devenu, comme souvent en France, plutôt un lieu de stockage d'armes, de stockage de foin, de stockage de bois et tout, à peu près en tout le 19e siècle. Et puis, au début du 20e siècle, c'est devenu le musée dauphinois. À l'époque, le musée dauphinois était donc en plein Grenoble, enfin en bas, quoi. Et ensuite, dans les années 60, au moment où Grenoble se préparait à recevoir les Jeux Olympiques, le musée dauphinois est monté à son lieu actuel. Donc, la chapelle du musée dauphinois, elle s'appelle Sainte-Marie d'en haut. Et nous, la nôtre, elle s'appelle Sainte-Marie d'en bas. Donc, le musée dauphinois est en partie, la chapelle Sainte-Marie d'en bas est devenue d'abord un peu une salle des fêtes, une salle de retrouvailles pour les habitants du quartier, notamment les Algériens qui étaient venus construire Grenoble pour les Jeux Olympiques. Donc, ils se retrouvaient, ils faisaient des fêtes à cet endroit-là et tout. Et dans les années 80, c'est vraiment devenu un théâtre avec un gradin, une scène de théâtre, et des rideaux, enfin tous les éléments qui font qu'on a un théâtre. Et donc là, on est 40 ans plus tard et c'est toujours un théâtre. Nous, on l'occupe plutôt pour faire des concerts. Vraiment, on est tourné autour de la musique plutôt qu'autour du théâtre. Mais c'est le prolongement de ce mouvement qui existe depuis les années 80.
Eh bien, on a hâte de voir cette chapelle complètement transformée lors de vos événements, différents événements. Et donc, pour en revenir à l'événement La Nuit Polaire, qui est ce jeudi 19 décembre, il y a différents intervenants qui vont venir pour différentes performances aussi. Donc, vous êtes notamment en partenariat avec l'ESAD, l'École supérieure d'art et de design Grenoble-Valence, et le Conservatoire de Grenoble. Donc, quelle performance ces acteurs vont donner ?
Alors, ces deux acteurs très différents, effectivement. Parce qu'avec l'ESAD, on travaille avec des étudiants, des étudiants, donc des grands étudiants, plutôt en troisième ou quatrième année. Et eux, ce qu'on leur donne comme défi, c'est de transformer l'accueil des publics. Nous, on a une façon habituelle d'accueillir le public qui est assez classique. Et là, ce qu'on leur dit, c'est carte blanche. Donc, en septembre, début septembre, on les a tous rencontrés. On leur a dit, carte blanche, on veut que vous accueilliez le public d'une façon qui va marquer les gens. Donc, l'année dernière, ils avaient transformé complètement notre hall d'entrée en installant des œuvres qu'ils avaient fait eux. Donc, c'était plutôt de l'art plastique, voilà. Et là, les étudiants de cette année nous ont dit, on peut installer des œuvres plastiques, mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt d'accueillir les gens dans des saveurs, des odeurs. Et avec cette découverte d'avoir des décalages sur l'odeur à laquelle on s'attendrait et comment on fait pour que les odeurs soient vraiment marquantes dans une soirée. Bah, c'est vrai que quand on rentre dans un lieu, en fait, l'odeur est très importante et c'est quelque chose qui peut vraiment nous marquer sans qu'on en ait conscience. Donc, c'est ça qu'ils ont envie de travailler. Comment on améliore l'hospitalité des gens dans un lieu. Donc, on fait une jolie lumière plutôt qu'une lumière toute crue avec des néons. Une jolie lumière, immédiatement un accueil presque personnalisé avec des gens à qui on va voilà, offrir des mandarines. Évidemment, il y aura à manger et à boire parce qu'il y a deux séances en fait. Une à 19h jusqu'à 21h et une à 21h jusqu'à 23h. Donc voilà, les étudiants, ils sont vraiment chargés de réfléchir aux couleurs, aux odeurs, aux lumières, de toute la partie qui permet d'accueillir les spectateurs. Donc ça va être incroyable. Je pense que dès le parvis, il va y avoir plein de choses qui vont nous complètement nous transformer par rapport à la façon qu'on a d'habitude d'accueillir des concerts. On est un peu dans l'idée qu'on veut sortir de la consommation, de je vais à un concert, j'achète mon billet, je m'assois et après je repars. Là, on va vraiment changer ça pour une fois. Et puis, pour ce qui est du conservatoire, alors là, c'est complètement différent parce qu'on accueille les plus petits des joueurs de cordes, donc les violons, les altos, les violoncelles. On accueille 27 élèves, mais je pense qu'ils doivent avoir 8 ans, 9 ans, 10 ans. Ils sont vraiment petits. Et ils vont jouer les cordes telles qu'elles sont jouées dans les pays scandinaves, en Suède, en Norvège. Traditionnellement, ces instruments, le violon, c'est l'instrument qui s'est le plus déplacé parce que c'est le plus petit instrument presque du monde. Donc, dès qu'il y a des migrations, on a son violon avec soi. Donc, même dans des pays où les gens se déplacent beaucoup, et ce qui peut être le cas dans les pays norvégiens, scandinaves, le violon est présent. Et il permet de faire des fêtes facilement. Un violoniste tout seul fait vite danser la foule autour de lui. Et donc, c'est ça qu'ils vont essayer de montrer. Et ce qui est un enjeu pour eux, ça va être de jouer sans partition, de jouer devant du public, de jouer debout. Donc, dans la façon de faire traditionnelle et non pas dans la façon de faire classique où on a plutôt tendance à jouer assis derrière un pupitre. Ils vont jouer un quart d'heure. Et j'ai très hâte de les entendre parce que je pense qu'ils vont vraiment... donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ça fait 3 mois qu'ils travaillent sur les 2 ou 3 morceaux qu'ils vont nous jouer. Et ça va vraiment être un petit moment très mignon de musique trad enlevée. Il y a un petit percussionniste aussi qui sera là. Je pense que ça va vraiment marcher.
Oui, ils doivent être très très fiers de venir comme ça jouer devant du public. Enfin, ça doit être impressionnant pour eux du haut de leurs 8-9 ans. Donc oui, tous les sens seront...
On va plutôt essayer que ça soit un moment joyeux qu'un moment inquiétant pour eux. C'est tout l'enjeu aussi pour nous, parce que c'est vrai que quand on est petit, des fois ça fait peur de jouer devant du public. Mais nous, on essaye vraiment de créer l'atmosphère de la façon qu'on a de les accueillir pour qu'ils aient pas peur, mais au contraire qu'ils soient joyeux, qu'ils comprennent que l'idée, c'est vraiment d'être heureux, de parler à des gens plutôt que d'être inquiet.
Oui, donc en tout optimisme. Et lors de cette nuit polaire, vous avez aussi Philippe Le Goff qui va venir représenter sa performance documentaire Tumik. Donc je vous laisse tout de suite écouter un extrait du teaser.
Tumik, ça veut dire trace. On pourrait appeler ça un pissirk. Le pissirk, c'est un chant personnel qui est chargé de l'expérience et de la... et de l'émotion de la personne qu'il chante.
Si vous l'avez pas ami, vous n'avez mouru ou l'orxi mayonga. Naïti naïti aïn mouté de l'ugo. Ou qui yumi. Kata tchaït, n'épili ou rouma l'orxi mayaka. C'est dans l'hiver 88-89 que je suis parti pour la première fois dans l'Arctique canadien, chez les Inuits du Nunavik. J'ai toujours été fasciné par le Grand Nord, par l'exploration de ces terres aux confins du monde.
C'est un moment de vie, c'est un moment où je chante, où je réécoute les songes, où je revois les personnes que j'ai croisées là-bas. Donc je les mets un peu en scène, comme ça, parce que c'est des moments importants et je pense que c'est des moments que tout le monde peut partager. J'ai vraiment démarré cette aventure arctique quand j'étais encore en classe de composition au conservatoire, parce que je m'intéressais beaucoup à la voix sous toutes ses formes. Je m'intéressais aussi au, à la question du langage. Voilà. C'est là que j'ai entendu des Katanja, un travail vocal tout à fait saisissant, avec un son guttural, dans quelque chose qui nous emmenait ailleurs que dans le chant, simplement. Et on se demandait combien il y avait de voix, parce qu'on entendait une polyphonie. Mais... Et puis, il y a une chose alors, absolument fondamentale aussi, c'est qu'en faisant l'électroacoustique, j'ai appris à me servir d'un micro. Et là, tout d'un coup, la position de musicien que j'avais depuis que j'étais tout petit, je jouais du piano, je passais des auditions, donc où vous êtes en train de produire de la musique que d'autres écoutent, en prenant un micro, en mettant un casque sur mes oreilles, je me suis mis à devenir quelqu'un qui écoute. Et plus quelqu'un qui produit du son pour les autres, mais quelqu'un qui se met à écouter les autres. Et écouter le monde, écouter la nature, écouter les oiseaux, écouter la mer. Et là, ça, ça change beaucoup le positionnement. Ça a bien matché dans le monde inuit parce qu'on est dans une culture où l'économie de la parole est énorme et la hiérarchie de la parole est énorme. S'il y a un aîné qui est là, un jeune ne va pas parler de la chasse devant un aîné parce que l'aîné connaît plus sur la chasse que le jeune. Et il y a toute une forme d'apprentissage qui passe par l'observation et sans questionnement. Donc un chasseur va partir avec un enfant et l'enfant va suivre et va observer. Et puis il va observer comme ça, il va engranger pendant des années de l'observation en partageant en même temps, hein. C'est évidemment très pratique, et puis à un moment donné il va faire. Donc ça c'était vraiment une dimension fondamentale de l'oralité, de cette question qui est la question de l'expérience et de l'expérimentation.
Anana. Otiaway. Nukaril takalau poro dan nukatiluni papik. Ela angi yugiluni. Ningyong miutaro matatako atatanga inu yunus matilu.
Moi je suis parti avec un bagage d'artiste, c'est-à-dire je suis pas ethnologue du tout. J'ai jamais cherché à le devenir en fait. Ce qui est fondamental dans la science, c'est la neutralité du chercheur. Moi, je n'ai jamais prétendu être neutre. Donc, je suis vraiment rentré en contact avec les gens dans un échange et sans avoir derrière la tête l'idée, je vais écrire un article pour expliquer ce qu'ils font. Je n'ai jamais eu cette question-là, c'est jamais vraiment posé. Par contre, j'ai fait des enregistrements, des documentaires, mais ma démarche était d'abord artistique.
Si va tout roumarounir tout n'ya. Arsao pour amaler, arsao pour amaler. Tao tout ya pingou ya gou. Piongi tout roulou yunga. Oumi ya djoua, tiki kaloua pata. Si va tout roumarounir tout n'ya. Nyoko roumarounir tout n'ya. Arsao pour amaler, arsao pour amaler.
Vous êtes toujours sur Radio Campus 90.8 et vous venez d'écouter un extrait du teaser de la performance documentaire « Toumik » de Philippe Le Goff. Et en parlant de cette performance, elle sera ce jeudi 19 novembre à la Nuit Polaire, l'événement qui est organisé par le festival Détour de Babel, au théâtre Sainte-Marie d'en Bas. Et aujourd'hui, on est avec Joséphine Grolmoun, la co-directrice du CIMN, Centre International des Musiques Nomades, pour parler de cet événement. Et donc Joséphine, je voulais te demander, on entend dans cet extrait documentaire Philippe qui chante à la fin, et notamment de la musique qui est tirée de cette culture des Inuits. Donc quel rôle joue la musique dans Timouk, dans cette performance documentaire? Et est-ce qu'il y a, enfin, quelles sont les influences spécifiques de ces territoires et cultures arctiques qui se traduisent dans cette musique?
Dans Toumik, il y aura effectivement des voix. En fait, c'est un spectacle où il y a à la fois de la vidéo, Il y a un décor qui évolue à fur et à mesure de du déroulé du spectacle, qui dure à peu près 40 minutes. Et puis, il y a Philippe Le Goff lui-même qui diffuse du son, donc soit des interviews ou des enregistrements qu'il a pu faire dans les années 80, de personnes, donc d'Inuit, effectivement, qui vont revenir sur ce que c'est que ces chants et que ces voix, mais aussi beaucoup de paysages sonores, parce que l'intérêt incroyable de Philippe Le Goff, et d'ailleurs pour ceux qui seront là ce soir-là, il y aura du temps pour échanger avec lui aussi. Ce sera, c'est aussi un des aspects de cette soirée, de pouvoir discuter avec les artistes après la représentation. Et donc Philippe Le Goff, ce qui l'a intéressé aussi, c'est pas que d'enregistrer les personnes qui faisaient des concerts, c'est de les enregistrer dans leur quotidien, dans leurs discussions, mais aussi d'enregistrer les sons des paysages dans lesquels ils vivent. Donc le vent, les animaux, le bruit des arbres, le bruit de la vie quotidienne. Donc de créer comme ça, de mettre le spectateur dans l'entièreté du paysage dans lequel lui, il était. Il est allé là-bas donc pour la première fois en 88-89. Il a appris la langue. Il est maintenant enseignant à la haute école des langues étrangères en France. C'est vraiment lui qui apprend cette langue-là en France. C'est vraiment un des spécialistes de cette langue inuit. Et donc, c'est vraiment une grande chance de l'avoir avec nous sur ce spectacle. Et j'ai oublié la question.
Oui, mais c'est très bien. Tu as très bien présenté ce spectacle. C'est vrai que j'aurais dû d'abord te demander de présenter qui est Philippe Le Goff. Et donc, ce spectacle autobiographique sur c'était pas une expédition, mais son voyage en Arctique pour rencontrer le peuple inuit. Et oui, ma question c'était qu'est-ce qui caractérise les musiques et les chants de cette culture nordique ?
Ouais, alors ce qui est particulier dans ces chants, on l'a entendu, hein, c'est des chants qui viennent de la gorge, un peu comme peuvent faire les peuples mongols qui ont eux aussi un lien commun de ce nomadisme qu'on a quand on est dans des grands paysages avec pas de ville et des conditions climatiques extrêmes. Et ils ont la particularité, les Inuits, d'être vraiment plongés dans le jeu. En fait, le jeu, pas au sens de l'ego, hein, vraiment au sens de jouer. Le jeu est pour eux une dimension très importante de leur société, de leurs liens sociaux. Et on a du coup beaucoup de jeux vocaux entre deux personnes ou entre plusieurs personnes. Et là, on aura vraiment un exemple de ces chants qui se font en face à face, très proches. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de ces chants inuits, où il y a en général ces deux femmes qui sont face à face, mais presque à se toucher, et qui chantent l'une en face de l'autre, et ça crée comme ça un jeu vocal où au bout d'un moment on est complètement perdu pour savoir d'où vient la voix et comment ça, les deux voix en créent une seule. Donc ça, c'est vraiment la particularité des chants de cette région du Grand Nord du Canada. Et en règle générale, dans ces traditions, mais comme partout dans le monde, les chants accompagnent tous les moments de la vie quotidienne, que ça soit des moments de déplacement, des moments de cuisine, des cérémonies officielles d'arrivée, la naissance des gens qui arrivent, ou la mort de ceux qui partent. Et tous ces moments-là sont accompagnés de chants qui sont différents. Et nous, on est assez profane par rapport à ça, puisque notre culture a ses propres chants aussi pour accueillir ces moments-là. Et donc là, on nous plongera dans ces chants au sens artistique et non pas forcément dans leur sens social. Et c'est là toute la difficulté, enfin toute la différence entre un compositeur qui lui arrive avec son état d'esprit de tout ce que j'entends est musique, et d'un anthropologue qui se dit tout ce que j'entends a un sens social. Donc là, c'est intéressant aussi de le penser comme tout ce que j'entends fait musique, et donc cette société est une société de musique. Mais ça pourrait marcher pour toutes les sociétés, sauf qu'on a tendance à un petit peu oublier que finalement, on peut tout entendre sous forme de musique.
Oui, et donc ces chants très singuliers, on en écoutera justement après un extrait d'une chronique que France Musique a faite dessus. Mais avant d'écouter cet extrait, je voulais te demander qu'est-ce qui vous a attiré spécialement dans l'œuvre de Philippe Le Goff pour le programmer dans cet événement.
En fait, Philippe Le Goff, il nous intéresse particulièrement parce qu'il a cette capacité d'être à la fois un artiste contemporain, donc il va vraiment pas être que dans je mets en avant une musique traditionnelle que je respecte et que je considère qu'elle a jamais bougé depuis les siècles et des siècles, elle est millénaire et elle bouge pas, ce qui est une vision assez conservatrice qui est pas celle qu'on a nous. Nous, au détour de Babel, ce qu'on a envie, c'est de prendre les musiques traditionnelles, les musiques qui existent depuis longtemps, qui se transmettent de génération en génération, mais de montrer aussi qu'elles sont vivantes, qu'elles évoluent, et qu'on peut changer notre oreille pour les écouter, mais que les musiciens eux-mêmes les proposent dans des moments différents, avec des instruments différents, des façons différentes de faire. Et Philippe Le Goff, il est vraiment particulièrement fort pour faire ça, parce que ben voilà, lui aussi, il a été par exemple enseignant dans une autre école supérieure d'art et de design, c'était pas celle de Grenoble, mais c'était une autre. Donc il a vraiment cette capacité à rendre contemporains des choses qui nous semblent à nous millénaires, de les respecter dans leur durée, mais en même temps de les montrer d'une façon qui va nous parler aujourd'hui, sans qu'on tombe dans des clichés de folklore et qu'on se trompe en quelque sorte. Et là, dans les vidéos, ce qui est vraiment frappant, c'est qu'on aura à la fois des images de gens qu'il a rencontrés en 88-89 et qui sont maintenant les grands-parents de ceux qu'il a rencontrés après, parce qu'il n'a pas arrêté de faire des voyages en Arctique. Il n'en a pas fait un il y a 40 ans et il nous en parle, il en a fait tout le temps. Et il a suivi des populations et du coup maintenant il est en contact avec des jeunes femmes qui sont les petites filles des personnes qu'il a rencontrées les premières fois qu'il y est allé. Et il a toutes ces vidéos, il peut mêler comme ça les époques. Et c'est quand même assez rare de... Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens, et je pense qu'il n'y a que lui sur la musique, qui ont fait ce travail sur un territoire pendant aussi longtemps. En tout cas, sur le Grand Nord, il n'y a que lui qui a fait ça. Et qui a cherché comment enregistrer aussi des baleines. Enfin, voilà, être vraiment dans une pensée sonore de cet univers glacé qu'on a du mal à imaginer quand on habite en France.
Oui, et c'est donc un véritable passionné du Grand Nord, et le faire de manière sonore, ça nous permet de s'y plonger encore plus. Donc je vous propose tout de suite d'écouter la chronique d'Aliette de Lalleux qui s'appelle « Les jeux vocaux des Inuits » pour France Musique.
C'est un chant qui vient du fond de la gorge, du fond des âges. Les Inuits le pratiquent depuis des millénaires. Un jeu où l'on imite le son des phoques et de la glace. Un duel entre femmes, la première qui rit a perdu.
Dans certaines communautés inuites de l'Arctique canadien, les femmes ont longtemps pratiqué ces joutes vocales que l'on a appelées des chants de gorge, mais qui n'en sont pas, ce sont bien des jeux. Deux femmes se tiennent face à face et exécutent des motifs vocaux avec des sons voisés, c'est-à-dire qui font vibrer les cordes vocales, des sons non voisés, des sons expirés ou inspirés, des sons de gorge. Le but du jeu, eh bien, tenir le plus longtemps possible. La première qui se trompe, qui rigole ou qui n'a plus de souffle, a perdu. Ces jeux vocaux ont été interdits par des prêtres canadiens, puis réhabilités dans les années 60. Depuis, des concerts, des concours et des enregistrements témoignent de cette richesse de la culture inuite, une richesse conjuguée au féminin, puisque seules les femmes participent à ces joutes vocales. Des spécialistes avancent l'idée d'un divertissement quand les hommes partent à la chasse, mais pour l'ethnomusicologue Jean-Jacques Nattier, ce pourrait être une tradition chamanique. Quand les hommes sont à la chasse, les femmes invoquent les esprits de la nature et des animaux, et si on tend bien l'oreille, on n'entend pas de texte, mais des imitations de cris d'oies, de moustiques, de phoques, de chiens ou de pas sur la neige. Aujourd'hui, le réchauffement climatique a des conséquences sur toutes ces populations autochtones. Il est 2 fois plus rapide en Arctique que dans le reste du monde. Les Inuits interpellent donc les autorités sur la fonte des glaces, mais aussi sur ce qu'engendre cette crise climatique, des problèmes sociaux, économiques, la santé, l'alimentation, l'énergie, les infrastructures. Il faut tout repenser pour que les communautés du Grand Nord puissent s'adapter, mais pour le moment, cela reste juste un cri d'alarme.
Vous êtes toujours sur Radio Campus 90.8 et vous venez d'écouter la chronique d'Aliette Delalleux qui s'appelle « Les jeux vocaux des Inuits ». Cette chronique a été faite pour France Culture. On a entendu cette musique assez caractéristique des femmes inuites dont tu nous as parlé avant, Joséphine, avec ses chants de gorge. Cette population... au-delà de cette culture, elle est très touchée par le dérèglement climatique et elle en a parlé à la fin. Elle est aussi touchée par le dérèglement climatique, mais elle est aussi chassée parfois de son territoire. Je voulais te demander, est-ce que par cet événement, vous aviez aussi la volonté de montrer tous ces enjeux qui se jouent autour de ces populations autochtones et de leur donner donc plus de visibilité ?
C'est quelque chose qu'on fait sans le dire. En règle générale, sur le festival, et du coup sur ces événements un peu extraordinaires qu'on organise hors festival, donc comme cette nuit polaire, on essaye d'inviter le plus souvent possible des artistes qui sont engagés dans différents combats qui les concernent, que ce soit dans des questions de genre, que ce soit dans des questions de territoire. Et l'année dernière, par exemple, on avait fait venir une Québécoise qui s'appelle Elis Happy, qui est aussi d'origine inuite, qui vient du Grand Nord québécois, et qui avait très bien expliqué comment, par la musique qu'elle écoutait, elle, quand elle était jeune, c'était des grands tubes américains que nous aussi, on connaissait. Elle les a traduits en inuit pour montrer à quel point, c'est d'autant plus frappant pour nous, Français, c'est qu'au Québec, c'est les Français qui sont considérés comme une langue minoritaire. Et les Inuits, ils sont encore plus minoritaires que les minoritaires. Du coup, c'est vraiment un combat qu'ils ont du mal à mener parce qu'ils sont un peu écrasés par le combat francophone-anglophone. Ils sont un peu effacés. Et quand elle vient en France, du coup, elle a plus de possibilités d'exprimer le fait qu'elle est minoritaire. Et c'est des choses qu'on aime faire au détour de Babel. C'est vrai, de ne pas penser un concert juste pour la beauté du geste, même si c'est important. Mais aussi de se dire les artistes d'aujourd'hui et ceux d'hier aussi, mais en tout cas ceux que nous on a envie de faire venir au détour de Babel, c'est des artistes qui sont engagés. On a pu faire venir sur d'autres thématiques Rodrigo Cuevas par exemple, qui est un artiste espagnol qui connaît parfaitement toutes les musiques traditionnelles d'Espagne, mais qui d'autre part est complètement queer, donc il nous a fait une sorte d'opéra queer, mais à partir des musiques et des danses traditionnelles espagnoles des différentes régions. Et voilà, c'est ces artistes-là qui nous intéressent, comment on respecte le passé, comment on le remet en cause quand il a été porteur de mauvaises intentions, que ce soit pour les personnes ou pour les territoires, et comment on l'apporte sur le devant de la scène aujourd'hui, pas seulement pour critiquer, mais pour dire voilà, une autre façon de voir les choses, n'oublions pas ni les territoires ni les gens. Et on met ça, et encore une fois, on le fait de façon joyeuse, pas dans la plainte, pas dans la revendication violente, mais dans la musique, dans la joie, pour se dire, c'est comme ça aussi qu'on peut mener des combats et qu'on peut alerter les personnes sur les situations qui sont vraiment, qui se retrouvent dans énormément de régions du monde, malheureusement, que ce soit sur des questions de climat, de genre, ou de domination en règle générale.
Eh bien, on a hâte de voir cette belle mise en lumière de cette population inuite. Jeudi 19 décembre au Théâtre Sainte-Marie d'Amba. Je rappelle que c'est l'événement La Nuit Polaire qui est organisé par le Festival des Tours de Babel. Et donc, pour les horaires, il y a une séance à 19h et une séance à 20h. Et en tout cas, cette émission, elle touche à sa fin. Donc, on te remercie beaucoup, Joséphine, pour le temps que tu nous as accordé.
Mais merci à vous de m'avoir invitée.
Et on remercie aujourd'hui Oscar, qui était à la technique.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ? L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble !
Sur quoi ?
Sur le 90.8.
Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.